Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou, merci de votre présence et merci à Sylvie Germain d'être là ce soir pour nous parler de son travail, de l'écriture. Cette écriture qui est chez elle souvent constituée d'interrogations sur le sens de l'existence, le mal qui est dans le monde et dans l'homme, mais aussi d'un désir de tracer des voies qui mènent de la lumière, de la nuit à la lumière. C'est Xavier Houssain qui nous servira de guide dans l'exploration de cette écriture particulièrement poétique, foisonnante, singulière, où se mêlent souvent tour à tour sacré et merveilleux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Bonsoir. Sylvie Germain, on devait se rencontrer le 14 décembre.
Il y avait une grève.
Il y avait une grève, ça va être bientôt 3 mois après, nous y voilà donc. Et je suis très heureux, autant le dire très simplement, qu'on puisse dialoguer un petit peu tous les deux ce soir, ou plutôt je suis très heureux de pouvoir avoir le privilège de dialoguer avec vous ce soir. Si ça s'est dépassé avant Noël, on aurait peut-être commencé par parler de l'inaperçu et du Père Noël. Mais voilà. Quelques mots déjà, peut-être un petit peu, si vous le permettez, sur votre biographie. Bien que vous pensez que l'on devrait presque rien savoir de la vie d'un écrivain. Mais quand même. Vous êtes né à Châteauroux en 1954, où votre père était sous-préfet. Et vous êtes de ceux, au fond, qui ont profondément ce que Pierre Sansot appelait sans doute des souvenirs d'enfance, car vous déménagez en famille un peu partout, de la Lozère aux Vosges, au gré des postes où votre père est nommé. Jeune fille, vous suivez des études à la Sorbonne, des études de philosophie, et à Nanterre aussi, où vous avez comme professeur Emmanuel Lévinas, dont la pensée vous a beaucoup marqué. On pourrait dire nourri, plutôt, d'ailleurs, d'une certaine façon. À Nanterre, d'ailleurs, votre thèse de doctorat porte sur le visage, perspective du visage, transgression, décréation, transfiguration. Et c'est à cette époque que vous commencez à écrire, à voyager aussi dans les pays de l'Est. Vous découvrez la Tchécoslovaquie, comme s'appelle alors ce pays, et sa capitale, Prague, qui va avoir pour vous une importance tout à fait essentielle. Je disais que vous commenciez à écrire des nouvelles, notamment. À 29 ans, vous adressez un manuscrit chez Gallimard. Roger Grenier, qui le lit, va vous encourager et vous suggère de commencer quand même par un roman. Ce sera Le Livre des Nuits, qui paraîtra en 1984, suivi 2 ans après de Nuit d'Ambre. Deux romans qui sont, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, en union, en résonance, en suite.
Oui.
C'est une longue fresque familiale où se mêlent en fait la mémoire blessée, les descendances étranges et puis les guerres. Vous allez partir vivre à Prague à ce moment-là et vous allez y enseigner les lettres et la philosophie au lycée français. Vous êtes là-bas pour des raisons assez personnelles, très fortes, mais en fait la ville elle-même va jouer pour vous un rôle tout à fait essentiel, un rôle capital pour le coup. Vous y resterez 8 ans, c'est long. C'est là que vous écrirez « Jour de colère » qui sera récompensé par le Fémina en 1989. À votre tour en France, vous vivrez à Paris, à La Rochelle, à Pau, à Angoulême, où vous êtes actuellement, et toujours un peu c'est cette itinérance. Et maintenant, comme on dit, vous vous consacrez pleinement à l'écriture. Vous avez écrit une 30aine de livres, 28 je crois, 29. Des romans, des essais et des réflexions, des biographies, des textes pour la jeunesse. Magnus, qui est paru chez Albin Michel en 2005, a reçu le prix Goncourt des lycéens. On reparlera de ce livre sur la mémoire et sur le passé recomposé. Vous avez fait paraître à la rentrée littéraire de septembre Hors champ, toujours chez Albin Michel, une fable ou un conte philosophique contemporain sur l'indifférence, dont on parlera bien évidemment aussi. Voilà. Donc, pardon de ce long préambule. Mais qui me paraît toujours utile de donner quelques repères. Voilà. Mais je disais que vous n'aimiez pas vraiment que l'on parle de ce qui est de l'ordre personnel, de la vie privée, comme on dit. Selon vous, plus largement, est-ce que l'on a tort d'accorder de l'importance à la vie des écrivains ?
J'ai pas d'avis tranché sur la question. C'est un goût personnel. Moi, je n'aime pas et je dois avouer la première fois quand mon premier roman a été pris chez Gallimard, si j'avais pu, j'aurais aimé qu'il n'y ait aucune photo et qu'il y a un numéro ou une lettre, enfin j'aurais aimé écrire sous X quoi, et ça se fait pas, ça aurait pas été accepté. Alors en dehors du fait que j'ai une admiration immense pour l'œuvre de Maurice Blanchot, j'ai toujours eu beaucoup aussi d'admiration et d'envie à l'égard de cet écrivain qui a réussi à échapper toute sa vie aux photos, à toute forme de médiatisation, etc. Ça ne l'a pas empêché de faire une œuvre admirable, mais je pense que le phénomène Blanchot ne serait quasiment plus possible à l'heure actuelle.
Oui, c'est terminé.
C'est quasiment impossible. Et oui, moi, j'aurais bien aimé pouvoir écrire, ou un pseudo, ou quelque chose qui n'indique même pas vous êtes homme, femme, quel âge vous avez, mais où que j'aille, quoi que je fasse, il est marqué que je suis née en 1954. Je ne peux pas y échapper, donc je me suis dit, ça me dispense de faire de la chirurgie esthétique, parce que de toute façon, on saura mon âge. Voilà. Je ne peux plus tricher, c'est trop tard. Et juste une toute petite bien précision, sûr. Parce qu'enfin, il y avait plusieurs choses, mais j'ai oublié en chemin. Emmanuel Lévinas, n'a pas été professeur à Nanterre. Il était professeur à la Sorbonne. Et j'ai eu la chance, mes deux premières années, les trois premières années, il était encore enseignant et puis il a pris sa retraite. Et comme il a été remplacé par André Boutan, bon, certainement à tort, parce qu'il passait quand même pour un très très bon philosophe, mais bon, j'ai trouvé un petit peu dur, du haut de mes 20 ans, voilà, de voir remplacer Lévinas par un homme qui avait un passé un petit peu problématique, on va dire, qui était plutôt un homme d'extrême droite, je l'ai fort mal pris. Et donc, j'ai décidé d'émigrer parce que la thèse que je voulais proposer relevait, enfin, je veux dire, ça relevait du département dont il s'occupait en tant que successeur de Lévinas. Et je suis partie à la Sorbonne parce que pour être inscrite avec un autre professeur, voilà. Mais Lévinas n'était pas à la Sorbonne.
D'accord, mille pardons.
Non, mais c'est pas grave, c'est pour la mémoire de Lévinas, je reprécise.
On va peut-être commencer, je veux dire, cette séance, mon Dieu, par lire un extrait d'un de vos textes, je dirai après de quoi il s'agit. Qui va là ? Et si telle était la question initiale qui abruptement s'impose à tout lecteur ouvrant un livre et s'apprêtant à s'aventurer dans les méandres d'un texte ? Qui est donc dans ces pages qui se tient en amont de ce livre, qui va au fil des lignes, qui parle dans ces phrases ? Qui va là ? L'auteur et ses personnages se trouvent interpellés. Mais l'interpellation a commencé bien avant déjà, dès que l'auteur a convoqué ses personnages, ou plutôt dès que les personnages, encore informes, innommés, incertains, s'en sont venus solliciter l'auteur, quérir son attention et provoquer en lui désir, curiosité, tourment. Car d'où provient au juste l'initiative ? De l'auteur ou des figures qu'il met en forme, en situation, en scène ? L'auteur est peut-être bien le premier à lancer cette interrogation. Qui sont ceux-là, celles-là, qui rôdent aux confins de ses songes, de sa mémoire, et qui soudain s'acheminent dans ses pensées en soulevant sur leur passage un poudroiement de clair-obscur, de chuchotis et de soupirs, et arpentent son imaginaire d'un pas toujours plus vif et impérieux. D'où viennent-ils ? Qui les envoie ? Que veulent-ils ? De quelle étoffe sont-ils faits ? De quelle encre bruissent-ils ? De quel corps sont-ils les ombres projetées ? À défaut de trouver la réponse, qui d'ailleurs lui importe peu, tant prime en lui le désir de donner texture, voix et mouvement à ces ombres diaphanes, l'auteur déflace la question en écrivant. En se risquant dans l'inconnu, donc en se livrant à l'imprévu, et le lecteur éventuellement prend le relais de la question, la redéplace à sa manière. Qui va là ? Face à toute œuvre, qu'elle soit littéraire, plastique ou musicale, comme à l'intérieur de toute œuvre en train de se créer, se lève cette interrogation entre surprise et trouble. Qui va là ? Face à toute personne rencontrée, à tout visage, qu'il soit d'un proche ou d'un passant, d'un familier, d'un étranger, se formule cette demande entre étonnement et inquiétude. Qui va là ? Face à soi-même, frappé au détour d'un instant par la flagrance et par l'inévidence de sa propre existence, d'un même élan, surgit en force cette question entre stupeur et grande alarme, qui va là ? Face à la mort, le questionnement monte à l'aigu et vibre à l'infini entre mystère et effroi. Et vous ajoutez un peu plus loin, écrire, c'est fossoyer la nuit jusqu'à percer le petit jour. Alors ces phrases sont tirées de Céphalophore, un livre qui a été publié, que vous avez publié en 1997 dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard, dirigé par J.B. Pontalis. Les seins céphalophores, je le rappelle, sous votre contrôle, sont à l'instar de Denis, ces seins qui, ayant été décapités, se relèvent, prennent leur tête dans leurs mains et se mettent en chemin, en quelque sorte. Non pas poursuivre leur chemin, mais pour le coup se mettre en chemin. Ce livre me paraît, et pas seulement à cause des dates entre le début de votre œuvre et ce qu'elle est maintenant, mais vraiment comme étant au mi-temps de votre œuvre. Vous y tissez notamment une relation avec le poète autrichien Georg Trakl. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu plus de ce livre et de ce qu'il a amené, de ce qu'il a conduit, de ce qui vous a conduit vers ça ?
Alors, c'est les trois livres écrits dans la collection L'un et l'autre, que beaucoup d'entre vous doivent connaître comme collection. C'est vraiment une très, très belle collection. Déjà, le titre, L'un et l'autre. Et moi, j'aime beaucoup quand parfois des directeurs de collection vous proposent d'écrire pour leur collection. Et si c'est des très bons directeurs de collection, ils vous donnent vraiment envie en vous donnant, en fait, totale liberté. Et il y a un cadre très vague. Mais la liberté est totale, parce qu'on a tellement d'autres. Et donc le premier, ça avait été La pleurante des rues de Prague, ça avait été le second, qui n'a pas du tout marché d'ailleurs, les céphalophores, déjà la plupart des gens n'ont pas compris, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'avais écrit sur les escargots. Il y a eu une petite confusion sur le vocabulaire, donc je devais expliquer que je n'avais pas écrit sur les escargots, qui ne portent pas spécialement leur tête. Voilà. Et céphalophore, c'est vrai que c'est un mot qui, bizarrement, n'est pas dans le dictionnaire, mais il suffit d'aller dans un musée, au Louvre ou autre, et on voit des seins céphalophores, et parfois il y a de très belles représentations. On trouve des descriptions évidemment très, très délirantes chez Jacques de Voragine dans La Légende dorée, de seins qui ont subi déjà tous les martyrs, on n'arrive pas à en venir à bout, ils chantent dans les flammes, etc. Et à la fin, on leur tranche la tête. Alors là, les bourreaux sont épuisés, ils sont découragés, le saint ramasse sa tête, la porte dans ses bras et part avec. Et parfois, la tête chante, ça c'est extraordinaire. Et donc, j'avais repris cette idée parce que aussi, souvent, moi j'aime beaucoup toutes les expressions du langage courant. Elles sont souvent pleines de sens, d'ironie et aussi de poésie. Et il y a plein d'expressions avec la tête. Perdre la tête, pas avoir la tête sur les épaules. Comme je suis très distraite, je l'ai entendu souvent celle-là. Ma pauvre fille, si elle n'était pas sur tes épaules, il y a longtemps que tu aurais perdu ta tête. Donc, il y a toutes ces expressions, ou dire qu'on perd la tête quand on est amoureux, qu'on perd la tête parce qu'on a peur, etc. Il y a énormément d'expressions avec la tête. Et effectivement, je crois que les artistes, particulièrement, ont tendance à avoir, peut-être comme des sortes de dindres, je ne sais pas, plein de têtes imaginaires, et on porte des têtes. Et donc, c'était une métaphore qui me plaisait. Et dedans, si je me souviens, j'évoque aussi Orphée. Effectivement, Orphée reste une des figures parmi les plus belles qui soient de la mythologie. C'est vraiment l'image par excellence de l'artiste, pas seulement du poète ou du chanteur ou du musicien, mais je crois de tout artiste. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans la légende d'Orphée. Et la fin est d'une beauté, si on peut dire, incroyable quand il est déchiré, déchiqueté par les ménades, tellement déchiqueté qu'il ne reste que la tête qui a été arrachée à ce corps déchiqueté. La tête roule dans le fleuve, elle roule au gré des flots, et cette tête qui flotte sur l'eau chante encore Eurydice, Eurydice. C'est extrêmement beau, effectivement, comme sens. Et donc, dans ce livre, c'était une manière assez métaphorique ou détourné ou parfois des sortes de paraboles, à travers certains exemples, des poètes, des figures mythiques. Je crois que je fais aussi allusion à un passage des évangiles, de parler de cette manière dont on fonctionne, c'est-à-dire la manière dont fonctionne en fait notre imaginaire, parce que c'est ça qui m'intéresse toujours. Dans les personnages, c'est pareil, c'est aussi la fabrique de l'imaginaire. C'est toujours là que j'essaye d'aller voir, effectivement, qui va là. On ne le sait pas.
En ce qui vous concerne, Sylvie Germain, est-ce que l'expression assez consacrée, pour le coup, qu'on appelle la vocation de l'écrivain, correspond à quelque chose pour vous ? Et au fond, j'allais dire, c'est presque le propos de ce cycle de débats à la BPI. La question, c'est d'où vient peut-être cette envie d'écrire, ou de qui vient-elle ? Ou grâce à qui vient-elle ?
Alors c'est difficile à préciser. Je sais que la réponse va varier selon chaque écrivain. Il y en a, ils ont vraiment eu parfois très tôt une révélation en lisant certains auteurs et ils se sont dit, moi aussi, voilà, je veux pouvoir écrire. Ou... Non, moi, c'est venu assez tardivement. Je me croyais, je l'ai raconté souvent, plutôt une vocation du côté des arts plastiques, en ne faisant rien par ailleurs. Mais bon, je me rêvais peintre ou sculpteur, je fantasmais beaucoup là-dessus. Bon, je dessinais un peu, mais sans plus. Il m'en est resté au moins une passion pour la peinture. Et ça a été, bon, je vais résumer parce que comme j'ai souvent eu l'occasion de raconter ça, jusqu'en terminale, donc l'année du bac, donc après j'étais persuadée que je m'inscrirais aux Beaux-Arts, et en cours de route, il y a eu les cours de philo, et j'étais pas spécialement brillante en philo, c'est pas la question, mais un jour ça a été une dissertation qui, le sujet, bateau. La phrase n'est pas bateau, hein, mais un sujet assez bateau, je vois, ça se donne toujours dans des bacs, etc. Phrase tirée d'un livre de Dostoïevski, des frères Karamazov. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Point d'interrogation. Vous avez 4 heures pour traiter le sujet. Bon. Et je ne pense pas avoir fait une copie très flambante. Ce n'est pas la question. C'est ce jour-là, je crois, que quelque chose en moi, c'était de me dire, si la philo, c'est ça, avoir à répondre à des questions auxquelles il n'y a aucune réponse possible, satisfaisante ou suffisante, c'est fabuleux. Et l'année d'après, je me suis inscrite en toute innocence à la Sorbonne. Voilà. Et c'est ce qui m'a séduite, moi, dans la philosophie. C'est-à-dire, le plus naïvement du monde, je suis revenue vraiment au béaba de la philosophie, dont parle très très bien Aristote, Platon. La philosophie, c'est quoi? C'est l'art de s'étonner au départ. La philosophie, c'est l'étonnement qui est à la base de la démarche philosophique. C'est déjà du qui va là, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qui va là? Quel sens passe par là? Sens même y a-t-il, etc. Donc, je suis allée vers la philo. Et les premières années de philo, on est tellement sollicité, comme toute étude qu'on va faire, on nous demande constamment de faire des dissertations, et puis de la dissertation, on nous demande, et on passe par la maîtrise, je parle encore dans un vocabulaire ancien, maintenant je crois qu'on dit master, en bon français. Bref, donc la maîtrise, et puis un diplôme d'études approfondies, on appelait ça un 2A. Bref, peu à peu, on a à écrire, en fait, de plus en plus, donc à formuler sa pensée, poursuivre noir sur blanc, etc. Et ça comblait mon besoin d'explicitation, peut-être de ce qui va là, qui me passait par la tête, et d'essayer de traquer, de formuler du sens. Donc, j'étais très loin de la fiction, d'accord. Mais ça comblait mon espèce de jubilation, quand même, du langage. Et puis, arrivé un jour, où tout a une fin, donc un jour où j'ai soutenu ma thèse, c'était fini. Plus, j'avais dû écrire des contes pour enfants, des petits trucs, de la très mauvaise poésie aussi, enfin bon, des petites choses comme on écrit tous quand on est assez jeune. Et soudain, je n'avais plus de prétexte pour écrire. Les études étaient finies, j'avais mon doctorat en poche, et puis quoi? Et c'est là que, presque dans la foulée, j'ai commencé à écrire effectivement des nouvelles, mais ça, je savais que les nouvelles pouvaient pas être éditées. Je les envoyais pour avoir un avis, bon, mais avant d'avoir la réponse, moi j'avais déjà démarré un roman, parce que quand on commence à avoir le virus, voilà, ça continue. Et j'aime bien de temps en temps revenir, je sais pas si je peux appeler ça essai, mais un peu aux marges de la fiction. C'est-à-dire que dans le roman, ça fait bouger bien sûr plein de choses, des sensations, des impressions, des souvenirs enfouis, tout ça très confondu, et souvenirs de tous ordres, hein, familiaux, affectifs, privés, mais aussi des souvenirs venant de l'école, du lycée, de l'université, de lecture, d'ordre culturel, tout est brassé, la fabrique de l'imaginaire, elle brasse tout. Mais parfois, au fur et à mesure de l'écriture, à travers ce qui se met en scène, etc., il arrive à un moment où il y a des questions à nouveau qui restent en suspens. Et parfois, j'éprouve le besoin de revenir les interroger ou de les fouiller un petit peu, de fossoyer, pour reprendre le mot de tout à l'heure, par le biais d'une, on va dire d'un essai, faute d'un autre mot, mais d'un livre qui n'est pas que de fiction.
Oui, parce que ce qu'on pourrait presque dire, vous parliez de la peinture tout à l'heure, que vous avez une très large palette d'écriture. C'est-à-dire qu'en termes de genre, vous êtes romancière, vous êtes effectivement essayiste, vous écrivez des réflexions, vous écrivez pour la jeunesse également, vous avez écrit, vous avez écrit pour la jeunesse.
Non, j'ai écrit une fois.
Vous avez écrit au moins un texte.
Oui, un texte.
Au moins un texte, il est écrit.
Oui, il est écrit. Non, mais je veux dire, j'ai pas écrit.
Vous êtes fait biographe aussi?
Justement, j'avais mis dans le texte que j'avais fait, justement, que c'était pas, je ne le présentais pas comme une biographie. Non, la démarche d'un biographe, il y a quand même... Je pense que c'est bien d'avoir une formation, au moins un minimum de démarche d'historien. Mmh. Je ne peux pas me dire biographe et je n'aimerais pas le faire. Parfois, pareil, dans d'autres collections, on peut vous proposer d'écrire une biographie. Je n'ai jamais voulu le faire parce que je ne me sens pas la compétence pour ça. C'était, je l'ai fait pour Eti Ilesum. J'appelais ça une sorte de bio-résonance, c'est-à-dire je prenais des éléments. Bien sûr, je suivais une vie de manière tellement courte, puisqu'une vie massacrée, une vie sacrifiée, une vie tuée, quoi, assassinée à Auschwitz. Mais je m'appuyais essentiellement sur ces textes qui m'intéressaient. C'était le cheminement de cette femme, le cheminement intellectuel et spirituel de cette femme. Et un autre, je vois, auquel vous faites allusion, et ça me fait plaisir parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Il y a quelques livres comme ça qui tombent dans les oubliettes. Il y a Céphalophore et un petit livre que j'avais écrit sur un poète et graveur tchèque qui s'appelle Borislav Hajnek, qui est malheureusement très méconnu, voire pas connu du tout en France, et c'est très regrettable. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Grenoble, parfois au musée des Beaux-Arts de Grenoble, il y a quelques œuvres, quelques gravures de Hajnek, mais je crois qu'il faut demander où elles sont peut-être même pas exposées. Il y a des œuvres de Hajnek à Grenoble, parce qu'il était un traducteur du français et de l'allemand. Et un jour, ou dans les années 20, non, parce qu'il est mort à l'âge de 80 ans passés, à peu près en 1971, pour vous à peu près le situer dans le temps. Et il était allé à Prague, parce qu'en fait, il habitait en Moravie. Il était allé à Prague, il fouillait dans des bacs de bouquinistes, etc. Et il a trouvé un recueil de poésie d'une certaine Suzanne Renaud, poétesse française, un peu plus âgée que lui. Elle avait déjà dans les 30 ans passés. Il a été émerveillé par la poésie de cette femme, tellement séduit. Il est allé voir la dame jusqu'à Grenoble. Et voilà, une belle histoire d'amour. Il l'a ramenée pour la pauvre femme, la belle histoire d'amour. Il l'a ramenée en Moravie. Les premiers temps, c'était magnifique, parce qu'ils y allaient l'été. Et donc, elle ne connaissait qu'en été. C'était très plaisant. Et puis voilà, la guerre est arrivée. Et en ce temps-là, une femme qui se mariait perdait automatiquement, immédiatement sa nationalité et avait celle de son mari. Donc elle était devenue tchèque, par la force des choses. Enfin, à l'époque, tchécoslovaque. Et la guerre est arrivée, interdiction absolue de revenir en France. Et là, elle a vu ce que c'était que les hivers en Moravie à moins 30, sans chauffage et sans rien. Cette pauvre femme, en fait, a passé sa vie en dépression. En plus, après la guerre, le communisme. Et alors là, leur vie a été assez infernale, très persécutée, très très dure. Bon, une vie extrêmement triste. Elle a cessé d'écrire. D'ailleurs, elle avait appris le tchèque, elle a traduit certains textes tchèques en français. Mais cette femme a une vie extrêmement, extrêmement dure. Voilà. Mais lui a fait une œuvre que je trouve très belle, alors qu'elle était mise à l'index du temps du communisme, parce que c'était un homme de grande spiritualité. Et très autodidacte en tant que graveur. Et alors, il se levait le matin, enfin, il dormait à peine, c'était une sorte d'ascète. Il se levait à l'aube, dans la nuit, dans le froid, tout recroquevillé sur ses poils, les poils, vous savez, comme dans les pays de l'Est, c'est-à-dire ces grands poils sur lesquels on peut même s'allonger, presque, ces grands poils en faïence. Il faisait sa gravure, il écrivait sa poésie, puis après, il préparait la purée pour les cochons, il allait nourrir les cochons. Voilà. On peut se porcher, est un superbe poète tout en subtilité.
Ben justement, je voudrais peut-être lire un extrait d'un texte de Borislav Hajnek, parce que alors, le livre dont vous parliez a été édité en 98 aux éditions Christian Pirot. Il est toujours disponible. Et un poème qui est tiré de son recueil, le Serpent sur la neige, dont vous avez écrit la préface de la traduction, aux éditions Romarin à Grenoble en 97. Et un poème qui s'appelle « Chant de Noël » et que j'avais préparé également parce qu'on devait se voir en décembre. Enfin bon, c'est pas très grave.
Il n'y a pas un chant de Pâques ?
Je n'ai pas trouvé le chant de Pâques, mais... Donc, je vous laisse le soin d'établir un petit peu au fur et à mesure des discussions qu'on va avoir, les correspondances que l'on peut trouver avec l'œuvre de Sylvie Germain. Enfin voilà, ce poème « Chant de Noël » traduit par Xavier Galmiche. « Neige, 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 soir, le soleil se couche, grand fût, branches nues, les petits épicéas en fil sous la neige, simples cônes, clairs comme des saints. L'hiver est une louve blanche et hirsute aux pattes noires, couchée. Déesse de la cive fécondité, elle dresse les pattes. Les branches des arbres sont aiguisées comme des griffes. Et le soleil pourpre, c'est la langue dans sa gueule ouverte, luisante de sang. Les nuages, chiots gris, se baissent et sucent les mamelles innombrables et gonflées de la bête sauvage, la louve. Yeux de braise et dents de glace transparentes. Sa beauté dépasse l'entendement. Elle est couchée à l'entrée de la crèche de Noël et fait hurler la terrible et parfaite flûte de la faim pour accompagner le psaume des anges sur la vallée. Fait hurler la musique de la chute et du péché pour accompagner le chant souverain de la paix. Vous nous avez parlé un petit peu de la biographie de Bohuslav Hřenek, mais votre rencontre avec ce poète, comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'on entend bien qu'il y a quand même, pas sur les thèmes, il y a une véritable proximité d'intérêt littéraire.
Alors juste un petit détail, même si je ne sais pas le situer exactement, je pense que c'est un poème plutôt de jeunesse, une sorte de poème en prose. D'abord parce que sa poésie, comme toute poésie, vous me direz, mais extrêmement difficile à traduire tellement il joue sur des sonorités. Et en plus, la langue tchèque, comme beaucoup de langues slaves, permet des sortes de concisions qui ne passent pas en français. Il faut reconstruire des phrases entières. Et là, c'est un poème plutôt de jeunesse, du temps où il était assez influencé par l'expressionnisme. Après, sa poésie, que je trouve plus intéressante, est beaucoup plus dépouillée, beaucoup plus allusive et dépouillée. Et je l'avais rencontré, enfin, par hasard, pas vraiment par hasard. Quand j'habitais à Prague, je vivais dans un milieu essentiellement de dissidents. Donc évidemment, chez les dissidents, il y avait beaucoup de samizdat. Et comme il était interdit, mis à l'index par le régime en tant que poète chrétien, etc., il n'y avait plus du tout d'édition de ses œuvres. Il était totalement mis au rebut. Et un jour, chez des amis, je trouve un livre en très mauvais papier, etc. C'était des samizdat, des sortes d'œuvres complètes, pseudo-œuvres complètes de Hřenek, en tchèque, et qui avait été faite à Toronto. Et c'était l'écrivain, pour ceux qui connaîtraient l'écrivain Joseph Schwartzky, qui malheureusement est resté très très méconnu, qui était un très très bon romancier, et qui lui s'était exilé à Toronto, et il essayait de faire de l'édition. Donc je trouve ce livre, je regarde le livre, les gens autour de moi se moquent de moi parce que je suis particulièrement nulle en langue et mon niveau de tchèque était vraiment au-delà du basique. Et on se moque de moi parce qu'il passe pour un des poètes les plus difficiles en langue tchèque. Je feuillette le livre et dans une totale innocence, je dis oh, « c'est beau comme du Trakl ». Et là, ils n'ont pas bien compris comment j'avais pu deviner qu'il avait été traducteur de Trakl, entre autres. Donc il y a une sorte, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, je veux dire, il y avait une sorte de coup de foudre. Je serais incapable de traduire, même si j'ai traduit quelques vers quelque part en exergue d'un livre. Mais il y avait quelque chose que j'arrivais à, je ne sais pas, qui passait. Et puis j'ai découvert aussi qu'il était graveur. J'ai vu certaines de ses œuvres. J'ai fini par aller en Moravie, voir ses fils, de messieurs déjà très, assez âgés, etc. Et j'ai été vraiment très, très touchée par cette œuvre. Et puis aussi par la vie de cet homme. Et puis par tout le monde des années 20, 30, jusqu'à la guerre, certains milieux culturels qu'il y avait en Bohême et en Moravie, où ces gens-là étaient très francophones. Ils parlaient aussi bien d'ailleurs l'allemand que le français, mais certains très francophones. Et un homme comme Hřenek avait traduit, dès les années 20, 30, etc., des gens comme... il a traduit même après... il avait traduit Blois, il a traduit du Claudel, il a traduit du Giono. Il était en contact, il avait écrit à Rouault. Donc pour vous donner un peu une idée de ce milieu-là.
Alors, on va peut-être revenir au roman, là, de manière un petit peu plus directe. Mais à la lecture de vos textes, j'évoquais donc tout à l'heure les deux premiers titres que vous avez publiés, « Livre des nuits » et « Nuits d'ambre ». À la lecture de vos textes, on est saisi par, je ne sais pas si on peut appeler ça la puissance de l'histoire que vous déroulez, comme une histoire qui s'impose. Et en même temps, écrire un roman, c'est pas simplement raconter une histoire. Est-ce que vous vous définiriez, est-ce que vous vous placeriez déjà comme romancière? Moi, on parlait de la palette un petit peu élargie tout à l'heure, mais est-ce que...
C'est surtout des romans que j'aurais écrits. C'est vrai que le mot écrivain est plus global. Le mot écrivain, il désigne un peu toutes les formes d'écriture possibles. Donc, je dirais plutôt écrivain, mais c'est plutôt parce qu'il y a le mot de l'idée d'écriture dedans. J'aimerais bien même pouvoir dire une écrivante, parce que finalement, on écrit, c'est toujours quelque chose qui est en train de, hein, ça, ce processus. Mais je suis peut-être essentiellement romancière. J'aime l'art du roman. C'est vrai que j'aime profondément l'art du roman, même si, de manière un peu paradoxale, je lis plus d'essais que de romans. Mais je trouve que l'espace du roman est quelque chose de prodigieux, d'incomparable, parce que ça offre des possibilités illimitées. On peut écrire tant de styles, de tant de manières et être dans le roman. Le temps des écoles, heureusement, est fini. Il y a des modes, où il y a des mouvements, où il y a des courants, d'accord. Mais c'est plus exclusif. Donc, par exemple, on va se dire, à l'heure actuelle, il y a eu, où ça dure encore, l'autofiction, certaines choses comme ça. Mais il y a tellement de manières de pouvoir écrire, peut-être parfois à la marge du roman, mais je trouve ça extraordinaire qu'on puisse écrire comme on l'entend, en écrivant. Roman, c'est quand même de la fiction. C'est une fiction qui, en même temps, essaye de coller au plus proche du réel. Le roman, c'est une manière vraiment d'ausculter le réel. C'est-à-dire, si on distingue les deux mots, à la limite, ils sont synonymes et pas synonymes, réalité et réel. Le roman, il essaye, à travers justement ce qu'on appelle la réalité, en fantasmant ou avec le recours de l'imaginaire, etc., il va essayer de prendre cette réalité comme une pâte. Et de la triturer, de la brasser, de la travailler comme on travaille n'importe quelle pâte. Et peut-être que la levure, pour le coup, c'est l'imaginaire. Et faire se lever quelque chose qui peut-être n'est pas sensible ou perceptible au premier coup d'œil et qui est le réel. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le roman. Mais moi, je renvoie toujours au livre que je trouve vraiment excellent de Kundera sur l'art du roman. C'est un très, très beau livre, je trouve, en tant qu'essai, de réflexion sur ce qu'est le roman. Quand il parle de les personnages comme un ego, un personnage est un ego expérimental. C'est vrai qu'un personnage, même s'il est totalement inventé, si c'est même pure fiction, on n'invente pas à partir de zéro, hein, on ne fait pas du Deus ex machina, je veux dire. Donc on invente nos personnages, même si on ne sait pas à partir de quoi ou de qui, etc. C'est quand même à partir d'un ensemble de... aussi bien peut-être déjà d'autres personnages qui nous ont frappés dans des romans, des personnages aussi dans des films, et puis de gens qu'on a connus ou on a entendu parler. Les sources d'inspiration sont illimitées, elles aussi.
Je parlais de puissance de l'histoire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais parler de puissance, c'est aussi parler d'une certaine manière, c'est parler de lutte également. Quelle est la part de la lutte, j'allais dire presque du combat à l'intérieur de votre texte? Francine Siguier, tout à l'heure, disait que parler de l'omniprésence du mal. Il y a un combat contre le mal qui est quelque chose qui vous hante dans votre rapport à l'écriture. D'une certaine manière.
Oui, mais comme je dis toujours, la littérature est le mal, il y a plein de thèses dessus, la littérature est le bien, il n'y a même pas l'équivalent d'une fiche comme ça sur la littérature est le bien, parce que bon, ben voilà, le bien n'inspire pas, alors que c'est connu, ça. Comme vous parliez du mot lutte, ça me fait revenir du coup à mes deux premiers romans, oui, qui a réduit qu'un seul roman. Et puis, ça m'a échappé, et il a proliféré, et du coup, il m'a fallu deux livres pour, arriver à l'image qui m'avait mise en désir vraiment d'écriture, en mouvement d'écriture pour le premier roman. Et c'était, ça aussi j'ai eu souvent l'occasion d'en parler, c'est une image là pour le coup culturelle, plein de gens peuvent se la représenter, surtout à Paris, il suffit d'aller à Saint-Sulpice. C'est la lutte avec l'ange. Ce passage dans la Bible qui est quand même un des grands passages de la Bible, de la lutte de Jacob avec l'ange. En fait, dans la Bible, il n'est pas dit avec l'ange, avec un inconnu, avec on ne sait pas trop avec qui est-ce Dieu, est-ce un homme, est-ce un démon, est-ce un ange. Bon, on appelle ça la lutte de Jacob avec l'ange. C'est simplement, on peut le voir tout simplement, entre guillemets, la lutte, cette lutte-là, on est tous conviés. Alors là, vraiment, tout être humain, quel qu'il soit, où qu'il soit, quelle que soit l'époque, on est convié à ça, c'est-à-dire à un moment devenir... adulte, je pense, c'est ça, s'ouvrir vraiment au monde, c'est ça, c'est quand on se pose des questions. qu'on se pose dès l'enfance, en tout cas dès l'adolescence, les éternelles questions. D'où on vient? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Enfin, les éternelles questions qui nous passent tous par la tête. Et c'est un peu ça, la lutte avec l'ange, avec l'inconnu, avec la nuit. C'est pour ça qu'elle se passe dans une nuit. En fait, il n'est même pas précisé que c'était la nuit. Non plus dans le passage de la Bible au fameux guet du Yabok. Mais c'est une sorte de nuit, peut-être, des sens, nuit de l'intelligence, nuit de plein de... c'est-à-dire mise entre, comme une sorte de mise un peu en retrait ou entre parenthèses de toute cette rumeur, de tout ce remue-ménage qui nous accapare et qui détourne notre attention de peut-être de ce qui est quand même cette urgence. Et je trouve l'image, sur un plan intellectuel, sur un plan spirituel, mais aussi sur un plan esthétique, parce qu'elle a inspiré beaucoup de peintres, extraordinaire. Un qui est très célèbre, bien sûr, pour ça que je parlais d'église Saint-Sulpice, là, c'est bien sûr la fameuse fresque peinte par Delacroix. C'est très beau. Et parfois, on voit des représentations, parfois c'est une lutte, et parfois, on a l'impression d'une danse, d'un tango. Parfois, c'est carrément une sorte de quelque chose d'érotique. Il y en a d'autres, ils luttent comme ça, on dirait vraiment une sorte de taureau qui fonce. Enfin, je veux dire, on peut représenter cette lutte de manière très, très diverse. Et bon, voilà, c'était ça qui m'avait donné envie d'écrire, mais l'image m'a échappé. Il m'a fallu 2 livres pour vaguement esquisser cette image. Et je crois que cette idée de la lutte, qui n'est pas obligatoirement une lutte sanglante, une lutte, on passe par des tas de phases hein, dans une lutte, comme je disais, selon les peintres, d'ailleurs, elle peut être représentée de manière érotique ou tendre ou brutale. Enfin, bon, on peut la représenter de multiples façons. C'est la manière dont elle se renouvelle dans nos vies, voilà. Alors bon, pour un écrivain, ça va passer par le langage. Mais à chaque fois, se confronter... Voilà, l'aventure d'un nouveau roman, c'est quand même une forme déjà de lutte avec l'inconnu, puisque personnellement, je ne sais jamais où je vais quand je commence un roman. Donc il y a cette part de lutte.
Mais sur le côté sombre des choses, là, juste quelques lignes aussi de L'Enfant Méduse que vous avez publié en 91, où on parle ici de la petite Lucie. Elle avait renié tous les astres. Elle avait troqué la splendeur du firmament contre celle de la terre à boue, à broussailles et à vase. Elle avait troqué l'or radiant des étoiles contre le bronze étincelant des couleuvres, des crapauds, des insectes et des yeux de hibou. Elle avait basculé brutalement contre la terre qu'elle ne voulait même plus se relever. Elle ne désirait plus que s'enfoncer dans la terre, creuser dessous la terre. Alors, Lucie, pour les gens qui n'ont pas lu ce livre, a été abusée par son demi-frère Ferdinand. Et puis, cette souillure, en fait, l'a fait passer de l'autre côté du conte. Perles et diamants, crapauds et serpents. C'est une vision du monde, ça, cette espèce d'arrachement entre la lumière et l'obscur, et le profond obscur.
Quand j'avais écrit ce livre, effectivement, vers l'année 90-91, comme tout le monde, j'avais entendu souvent des histoires qui sont toujours aussi effroyables, d'enfants abusés par des adultes. Et c'est vrai que c'est une forme de crime. C'est vraiment un crime, on peut dire crime contre l'humanité, puisque c'est crime contre l'enfance. Quand on abuse des enfants, qu'il y a viol, qu'il y a souillure, c'est vraiment l'enfance, l'innocence, l'insouciance, la candeur de l'enfant qui est souillée, abîmée. Et ce qui est terrible, c'est qu'apparemment, c'est l'adulte à venir qui est déjà handicapé. Et bon, j'avais entendu plusieurs histoires. Alors, plusieurs personnes m'avaient demandé après, est-ce que c'est autobiographique ? Grand Dieu, non. Et je me suis dit, d'ailleurs, si j'avais subi ça, je ne pense pas que j'aurais pu écrire ce livre-là. Ou je n'aurais pas écrit comme ça, j'imagine. Mais ça a été... Il y a toujours un jour où il y a quelque chose qui fait déborder le vase. La goutte qui fait déborder le vase. J'ai entendu beaucoup d'histoires, de choses et tout. Et une fois, quelqu'un que je connaissais, qui était un de mes élèves, que j'appréciais beaucoup. Bon, je voyais qu'il n'allait pas bien, mais comme souvent des adolescents, est venu me raconter... Enfin, c'était sa mère, pardon, qui m'a raconté, qui était, elle, une collègue, voilà. Et j'ai su après que son propre fils avait subi la même chose avec le même homme, à 20 ans d'intervalle. Et qui est venu me raconter des choses de ce qu'elle avait subi. Mais j'étais tellement consternée. Et si j'avais mis même la moitié de ce qu'elle m'a raconté dans un roman, ça aurait fait vraiment, vous savez, au-delà du roman de gare et de l'effroi. La réalité, hélas, dépasse toujours la fiction. Et je crois que ce jour-là, ça, peut-être parce que cette femme, je la connaissais, que son fils, en plus, était mon élève, quand j'ai compris que les deux avaient subi des choses, la même chose de la part de même personne, et ça a dû faire remonter tout cet effroi que je portais à l'égard de ce, enfin, de dégoût, de révolte, qui ne servent pas grand chose, hein, mais à l'égard, voilà, de ça. Et j'avais écrit, effectivement, ça m'était venu, du coup, cette espèce de brisure de l'enfance. Moi, je ne cherche pas le pourquoi des choses, surtout d'un côté psychanalytique. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour moi. Même ça briserait tout élan d'écriture. Et je me suis souvenue d'une expérience que j'avais eue enfant. Et c'est le seul élément autobiographique. Quand j'avais eu ce bonheur fou, cette chance énorme, d'assister à une éclipse. Une éclipse totale de soleil. Je ne sais pas, je vais avoir dans les 6 ans... Et j'étais dans les Vosges, c'était à l'époque où j'habitais dans les Vosges. Et ce qui m'avait frappé, c'était que les adultes nous disent, les adultes eux-mêmes étaient très excités, très inquiets. On n'avait pas encore les lunettes, etc. On nous avait fait noircir, vous savez, une plaque de verre. Ceux qui sont nés dans les années 54, n'est-ce pas, puisqu'il m'a dénoncé, peuvent avoir ce souvenir-là. Et donc, on avait foncé avec une bougie, enfin bon, une plaque de verre pour regarder un peu à travers. Les adultes étaient très excités. Il y avait tout, vous voyez, toute cette atmosphère étrange. Et on nous avait dit, voilà, il y avait quand même deux choses par lesquelles, sorte d'idée de la mort faisait vraiment comme intrusion, du moins dans mon imaginaire, avec une certaine panique. Et c'était d'une part, si vous ne regardez pas à travers ça, vous allez être aveugle, vous perdrez la vue, ce qui est quand même terrifiant. Enfin, je me suis dit, on va la perdre à la fin de la soirée avec les lumières. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, l'autre chose, alors là, qui m'avait littéralement aplati, c'était qu'on nous dise « regardez bien », sans le regarder directement, mais « regardez bien », parce que vous ne reverrez jamais ça, ça n'aura pas lieu avant au moins 100 ans. Et à l'époque, on ne pensait pas qu'on pouvait vivre 100 ans. Ça, c'est un nouveau truc, le fait qu'on vivra tout jusqu'à 100 ans. Donc, il y avait, par deux fois, il y avait quelque chose lié à la mort qui était assez effrayant. Et puis, le moment où ça se passe, ça peut être très court, fait partie des choses dont on garde le souvenir. Quand cet instant, ça dure qu'en fait quoi, quelques secondes, une minute ou deux maximum, on aimerait tellement que ça dure des heures, mais le refroidissement très soudain, et puis le silence total, soudain de la terre, les animaux, il n'y a plus un son d'animal, et ça c'est extraordinaire. Moi, j'avais été littéralement éblouie, si je puis dire, éblouie. Et cette lumière qui est si particulière. Après, parfois, dans des tableaux que j'ai, parfois il y a des tableaux, Dieu sait qu'il y a des tableaux que j'aime, mais parfois je suis comme happée ou comme s'il y a un tableau, les tableaux peuvent vous toucher, vous peuvent taper sur l'épaule ou vous prendre par la main. Parfois on regarde, on ne fait pas très attention, puis on sent qu'on a raté quelque chose. C'est comme si le tableau vous tapait à l'épaule, on se retourne et je me dis, c'est une lumière d'éclipse. Le peintre a été inspiré par une lumière d'éclipse. Et j'avais repéré comme ça une fresque à Florence, d'ailleurs que je mentionne du coup après dans le livre à la fin de Taddeo Gaddi. Et la lumière est extraordinaire dans cette fresque. Alors j'ai fait chercher tant que je pouvais, j'ai trouvé enfin tout petit livre un jour et j'ai vu que ce pauvre Taddeo Gaddi, qui était un peintre du 13e, c'était flinguer les yeux à force de regarder justement des éclipses. Il était fou d'éclipses et c'était une lumière d'éclipse qu'il avait peint pour une très très belle nativité. C'était l'annonce faite aux bergers. On voit des bergers, vous savez, comme ils peuvent être à flanc d'une colline qui se soulèvent un peu comme ça sur les coudes. Et la lumière n'est pas la lumière de la nuit, c'est pas la lumière de l'aube, c'est une lumière d'éclipse. Voilà, il y a des lumières comme ça qui sont incomparables. Mais si on part sur les éclipses.
Ah, oui, la lumière d'éclipse, l'étrangeté, en fait, d'une certaine manière. Et puis presque aussi, j'allais dire, dans beaucoup de vos livres, il y a, on pourrait dire, le fantastique qui prend une part importante, mais pas un fantastique qui arrive avec justement ce Deus ex machina dont vous parliez tout à l'heure, qui n'advient pas. Mais c'est presque par porosité. C'est-à-dire qu'un fantastique qui envahirait ce que vous appeliez le réel ou la réalité tout à l'heure, presque par porosité. Et ça se fait presque simplement, presque naturellement chez vous, dans votre écriture.
Mais parce que ça se fait naturellement dans l'existence, moi, je trouve. Il suffit de regarder d'une certaine manière. C'est parce qu'on ne prend pas le temps. Non, c'est vrai, il ne s'agit pas d'être dans du délire, mais Même les peintres, ou ils ont une certaine, les photographes, c'est toujours étonnant de se promener avec un peintre, un photographe, à quelqu'un qui est vraiment dans le visuel. Il faut les choses autrement, ils vont être mis en arrêt par d'autres détails que ce qui, quelqu'un comme moi, par exemple, va m'arrêter. Ça va être tout de suite donner lieu à du narratif dans ma tête. Un peintre ou un photographe ont des manières de réagir ou de dire des choses quand ils s'arrêtent. Un paysage dans la rue, devant parfois quelque chose qui est trois fois rien, mais surtout les photographes, ils ont intérêt à avoir l'œil vif, c'est-à-dire rapide. Et parce que quand il y a un jeu de lumière ou d'ombre, c'est extrêmement fugace. Donc, et parfois, un jeu de lumière, d'ombre, peut donner une image, créer une image, quelque chose de très fantastique, faire une sorte d'écriture visuelle de... Quelque chose qui peut, oui, sembler relever du fantastique, mais pas du tout. Si on regardait bien la réalité, si on regardait bien aussi un peu les autres et tout, on verrait que qui va là, il s'en passe des choses. Hein.
Ah, bon, la lumière, l'ombre, la peinture, la photo. Est-ce qu'il y a aussi une manière de faire apparaître, comme écrivain, de faire apparaître une idée comme une ombre portée ?
Mais les idées, elles ne fonctionnent que comme ça, souvent. Pour ça, j'ai fait 7-8 ans de philo, mais j'ai bien senti que je ne pouvais pas être une très bonne philosophe. D'ailleurs, je me souviens le début de ma thèse, ça n'a pas tellement plu au prof, c'était « Ceci est une fable ». C'était les premiers mots de ma thèse, qui étaient divisés en nuits. Chaque chapitre était quand même une nuit. Donc, déjà, il y avait quelque chose qui se tramait, je pense. Et la philo est vraiment ce qui m'aura peut-être plus nourrie, même que la littérature en tant que telle. Je continue à en lire et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mais je sentais bien, même bon, si j'ai fait ce qu'il fallait faire pour avoir les diplômes et tout ça, mais que je n'avais peut-être pas la rigueur ou la démarche. Donc moi, je ne me dis pas du tout philosophe. J'ai étudié la philosophie, mais je ne me dis pas philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui continue, qui est dans un travail constant de réflexion vraiment philosophique, axé sur les ouvrages philosophiques des autres. Voilà. Donc moi, je funambule un peu en marge, on va dire, de la philosophie, ce qui fait que les idées, comme j'ai du mal à les mettre vraiment noir sur blanc, à vraiment bien les capter et les traduire, ce qu'un philosophe est censé essayer de faire à travers quand il va élaborer un système ou essayer d'expliciter justement sa pensée de la manière la plus logique, la plus structurée possible. Moi, je suis peut-être un peu trop baroque ou c'est un peu trop loufoque dans ma tête pour parvenir vraiment à ça. Et par le roman, il y a certainement des choses qui passent, mais d'une autre manière, on peut... Mais de toute manière, on sait très bien quand on voit, je veux dire, les grands cinéastes, vraiment les beaux films, la grande peinture, la musique, quel que soit mais même un danseur, enfin je veux dire, quelle que soit la pratique artistique, on sent bien qu'il y a du sens qui passe. Et on n'a pas toujours les mots pour essayer d'expliquer. Là, fatalement, je ne peux que faire référence à l'exposition qui est magnifique, Soulage. Qui nécessiterait beaucoup de temps, je trouve, de méditation devant ces tableaux. C'est époustouflant d'aller voir ces grands tableaux noirs. Et surtout vers les dernières salles où c'est vraiment noir, noir. Mais non, c'est pas si simple. À travers ces tableaux, on sent bien qu'il y a une dramaturgie qui se passe. Il se passe quelque chose. On sort de là, on est irradié de noir. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Et on sent bien qu'il y a vraiment, comme bon, un autre peintre que j'adore, Rothko. Dans des tableaux de Rothko, on sort de là. De toute façon, moi, je me dis, si on ne sort pas totalement irradié et flingué par une exposition de peinture, c'est qu'il ne s'est rien passé. Bon, ceux-là, ils sont extrêmes, hein, il faut dire. Mais voilà, même si on n'a pas les mots précis pour dire je ne vais pas aller tout de suite élaborer une théorie ou quoi que ce soit là-dessus, mais je sens bien que, voilà, je ne peux pas sortir indemne d'une exposition comme ça, c'est-à-dire devant un tableau. Il y a des films aussi qui font des effets, même pour un plan. Et c'est pas... Alors bien sûr, si je cite des gens parmi mes cinéastes préférés, Tarkovsky, Bergman, on va se dire, normal, bon, un côté déjà très... C'est très connoté. Mais des cinéastes que je mets aussi très, très haut, par exemple, à Ken Loach ou les frères Dardenne ou des cinéastes comme ça, on sort de leurs films, je veux dire, tout ce qu'ils peuvent faire passer ou dire est d'une puissance incroyable. sur l'être humain, là aussi, sur l'être humain, sur les folies, sur les abîmes, les douves, les tout ce qu'on voudra de l'être humain. Donc, voilà.
Ben oui, non, mais justement, j'avais envie de lire un extrait de la chanson des Mal-Aimants, et je crois que ça répond assez à ce que vous venez de dire. J'entendais la pluie cliqueter sur le toit, couler en gargouillant le long de la gouttière, une faible clarté lunaire filtrée par les fentes des persiennes. Je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre, poussé les volets. Je suis resté là, malgré le froid, à contempler le parc enveloppé de pénombres laiteuses. Et pour la deuxième fois, une vision m'est venue. J'ai vu émerger de la brume un paysage de rocailles, une sorte de lande grise jonchée de cailloux biscornus, violet foncé, tacheté de mauve ou de doré fané. Ces cailloux provenaient d'une pluie de météorites. Une femme s'est avancée, le dos courbé, c'était une glaneuse de pierres célestes. Elle inspectait le sol, ramassait certaines pierres, les soupesant et les tâtant. Elle en rejetait beaucoup. Celles qu'elle avait élues, elle les déposait dans un panier accroché à son bras. Quand son panier a été plein, la glaneuse s'est accroupie et en a renversé le contenu à ses pieds. Elle a opéré un nouveau tri avec méticulosité, disposant les aérolithes en divers tas autour d'elle. Elle les a longuement observés, puis elle a sorti un petit marteau de la poche de sa robe. Alors, elle a prélevé un caillou dans l'un des tas, l'a posé sur le sol et l'a frappé avec son marteau. Les coups résonnaient contre mes tempes. Le caillou a cédé, il s'est cassé comme une noix. La glaneuse a extirpé le noyau or de la coque minérale. C'était un mot. Elle l'a porté à sa bouche, l'a un peu léché pour en tester le goût, puis l'a mangé. Elle a procédé ainsi longtemps, piquant une pierre, tantôt dans un tas, tantôt dans un autre, et avalant chaque fois le mot extrait. J'ai compris que chacun de ces tas correspondait à une catégorie de noms, de mots, verbes, noms, adjectifs et adverbes, conjugaisons et articles, pronoms et locutions. La glaneuse grappillait, martelait et mangeait avec application. Elle concoctait ses phrases. Quand les monticules de cailloux ont été épuisés, elle s'est relevée. Elle était grosse comme une femme sur le point accoucher. Elle a fait quelques pas, s'est arrêtée, a calé ses mains contre ses reins cambrés et la tête rejetée en arrière, elle a crié. Son cri inaudible s'est échappé dans l'aspect d'un essaim, pas seulement d'abeilles, mais aussi de papillons, de libellules, de hannetons, de mouches, de coléoptères. Une nuée de mots insectes a tournoyé dans l'air en vrombissant. Puis des groupes se sont constitués, alignés, le vrombissement s'est affiné et rythmé, il est devenu un ample chuchotement, des signes de ponctuation, on louvoyait un moment, autour des groupes des mots insectes, et puis se sont accrochés, ici et là, vibrant insensiblement. Il y a une part importante du rêve et de la narration du rêve dans toute votre œuvre.
Ah oui ?
Bah oui.
Non mais là, je suis un peu gênée parce que j'ai oublié que j'avais écrit ce passage. Et je me rends compte qu'en ce moment, je suis en train d'écrire des choses un peu semblables, donc c'est effrayant. Mais en même temps, c'est normal parce que je crois que c'est une sorte de résumé du travail de l'écrivain, oui. En fait. C'est tout à fait ça. Les mots, on les prend, on les soupèse, on les sonde. Voilà, c'est comme ça finalement qu'on procède et c'est vrai qu'on les goûte. Ça passe presque par les cinq sens, on dit toujours le langage, c'est vraiment... Il n'y a pas plus... C'est immatériel, en un sens. Ça échappe au sens par rapport aux peintres, aux sculpteurs, etc. Enfin, je veux dire, dans les autres domaines artistiques, souvent, il y a quand même un matériau. Et ben, l'écrivain, non, c'est le langage. Mais c'est quand même... Il y a quand même quelque chose de... Je ne dirais pas concret, mais de charnel. De toute façon, il y a quelque chose qui résiste.
Est-ce que ce ne sont pas les mots, justement, qui résistent le mieux ?
Ah oui, il résiste beaucoup. S'il y a une lutte, c'est avec les mots. Enfin, les mots, la grammaire, la syntaxe, avec tout. Enfin, je veux dire, avec la langue.
On parlait du rêve, là. Enfin, je parle du rêve, pardon. Hein. Mais vous écrivez dans Magnus, parce que vous écrivez toujours un pas à côté du réel, et pourtant, enfin, vous écrivez dans Magnus, les rêves sont faits pour entrer dans la réalité, en s'y engouffrant avec brutalité, si besoin.
Oui.
Il y a une espèce d'incursion comme ça, de la part rêvée dans le réel, pour le transformer ? Pour le transcender, pour l'obliger à se remettre aussi en
fait,
place.
En fait, je suis persuadée que c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Là, on s'en rend pas spécialement compte, ou parfois on fait des métiers, on a une vie en apparence où il y a strictement rien d'artistique, mais souvent des idées qui vont nous venir dans la journée, des décisions qu'on va prendre et tout ça, peut-être en amont. par des rêves nocturnes, mais des rêveries diurnes également, des choses qui sont à la limite de notre conscience et qui viennent aussi tellement nous nourrir et nourrissent la pensée qui, ce qui va en émerger, ce qui va être de conscient, de volontaire, de décidé. Quand on est vraiment totalement dépourvu de toute imagination, de toute capacité de rêve, de un peu de capacité de fantasmer le réel et tout, pour justement aller un petit peu plus loin, pour essayer de comprendre, je pense qu'on s'auto-limiterait d'une manière considérable. Mais c'est des expériences qu'on fait dès qu'on... au moindre coup de foudre ou dès qu'on est amoureux, pas seulement d'une personne, mais d'un lieu, d'une œuvre, même en amitié, ou dès qu'on a un rapport où l'affectif va nous ouvrir un peu, justement, va disons attiser cette porosité, cette sensibilité. C'est ce qui nous permet de créer. Quand je parle de porosité, c'est justement vraiment ça, c'est-à-dire ce qui permet une sorte de passage constant d'échange constant entre ce qu'on appelle la réalité et le rêve. Mais moi, je ne les oppose pas de manière... Si, bien sûr, par rêve, on n'entend pas une sorte de délire, de fantasme pur. Et il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une manière d'essayer de toucher, de tester, de palper de manière plus attentive l'épaisseur du... J'aime bien cette expression d'épaisseur du réel. Il y a une chair du réel. Bon, il y a quelqu'un qu'on a très bien parlé, c'est le philosophe Merleau-Ponty. Il y a une épaisseur, il y a vraiment une chair du réel. Et nos sens, d'ailleurs, encore Merleau-Ponty le disait bien, notre sensibilité, elle n'est pas pure. On n'a jamais une relation totalement pure à ce qu'on appelle la réalité. Même nos sens, parfois, vous mettez 5-6 personnes différentes autour d'un même objet en demande de toucher. Pour certains, l'objet sera glacé, d'autres simplement un peu froid. Peut-être que quelqu'un le trouvera, un va le trouver assez rugueux, un autre non, pas tant que ça. Tout dépend de la sensibilité, même simplement de la peau. Hein, de la peau. Et puis, c'est valable pour tout, même devant un tableau, devant un spectacle. Dix témoins, dix observateurs ne vont pas faire le même compte-rendu. Parce qu'il y a à chaque fois toute une part, notre manière de percevoir le monde, elle est déjà très, très informée, elle est déjà pas préfabriquée, mais un peu prédéterminée par tout un ensemble de données. Bon, tout ça, j'enfonce des portes ouvertes, c'est connu. Mais c'est avec ça qu'on travaille. Peut-être que le romancier ou l'écrivain d'une manière générale est quelqu'un qui déjà écoute plus particulièrement les mots, accorde plus d'importance, d'attention aux mots, parce qu'une sorte de passion à la langue, et en même temps aussi qui s'arrête régulièrement, qui prend pas pour une évidence, même des sensations, même des impressions, des petits je ne sais quoi vont nous mettre en arrêt. Là où d'autres vont passer à côté, d'où souvent d'ailleurs ce malentendu. Souvent les gens vous disent, quand ils vous racontent un fait divers terrible ou un événement terrible de leur vie, enfin très spectaculaire, on pense souvent que le spectaculaire, le dramatique est un bon sujet pour un romancier. Pas obligatoirement, non. Parfois trois fois rien est un bien meilleur sujet qu'un drame. Ça dépend. Ça dépend ce que ça va éveiller comme écho.
Vous parliez de fables tout à l'heure à propos de vos travaux rendus, du début de vos travaux. Votre dernier roman, Hors champ, est une fable, justement, enfin, ou je ne sais pas si on pourrait dire un conte philosophique comme au XVIIIe contemporain, quelque chose comme ça.
Pas tant de prétention, une sorte de parabole, oui.
Oui. Il raconte l'histoire d'Aurélien, jeune homme amoureux, attaché à sa maman, amical avec ses collègues de travail, qu'un mal étrange va peu à peu ronger, parce qu'effectivement, Aurélien va disparaître en s'effaçant progressivement du regard des autres. Plus personne ne sent son parfum, sa voix ne porte plus et ses contours à terme vont devenir flous. Le livre est le journal de sa disparition du dimanche au samedi. C'est une espèce de décréation, en quelque sorte. 7 jours pour tout terminer, pour partir. On est ici dans le... Vous voulez bien le lire, l'extrait, là ? Oui, ce serait mieux avec votre voix. On est ici mardi aux prémices de cette disparition et là on évoque un souvenir d'enfance et des sensations.
Ça, c'est pas si je l'ai d'où à où ?
J'ai écrit sur le livre.
Tout ça ?
Oui, mais vous arrêtez quand vous voulez. C'est simplement qu'on est. Voilà.
Il y a des comédiens dans la salle. Là. Ils sont cachés. Ils sont où, les comédiens ?
On voit rien, de toute façon.
Bon. Aurélien ne bouge pas, il ferme les yeux. C'est en lui qu'il ranime l'image et peu à peu, celle-ci se transforme, elle s'étend. L'horizon recule, tirant une ligne bleuâtre entre le ciel blafard et la terre enneigée. Il a 3 ou 4 ans. Il glisse le long d'une pente, blotti contre sa mère sur une luge. Des arbres défient la vive allure. Leurs branches sont griffues et leurs silhouettes maigres. On dirait des squelettes de sorcières calcinées. Ils poussent des cris, de joie, d'excitation, de peur, d'émerveillement. C'est la première fois qu'il voit la neige, la touche, la sent. Ses cris se cassent aussitôt dans l'air glacé comme des stalactites. Il a l'impression que sa voix se détache de son corps et qu'elle part rebondir au lointain. La clarté du jour est étrange, elle poudroie, soyeuse et cendrée. Il n'en a jamais vu de semblable. C'est une clarté d'aube du monde ou de sa fin, à moins qu'il ne soit entré par effraction, par enchantement dans un autre monde. Toute cette beauté insolite l'éblouit et l'inquiète. C'est comme s'il assistait à sa propre naissance. Mais laquelle ? Est-il en train de naître ou en voie de mourir ? Et derrière lui, l'enserrant, est-ce bien sa mère, toujours, ou une autre personne ? Un de ces arbres sorcières, peut-être, ou la cruelle reine des neiges ? Il n'ose pas se retourner. Le vent siffle, lèche sa face d'une langue râpeuse. Est-ce la langue d'un loup immense et invisible ? Il rit, d'un rire aigu où perce la panique. Sa mère resserre son étreinte et lui chantonne à l'oreille sa ritournelle dont les drôles de mots sonnent si joliment. Biedronechko lech do nieba, pchiniesh mi kavalek chleba. Ça veut dire « Petite coccinelle vole vers le ciel, apporte-moi un morceau de pain ». Son rire s'apaise aussitôt et teinte avec gaieté. Seule sa mère sait chanter cela. Dérouler cette phrase ainsi qu'un filet d'eau fraîche, versé d'une cruche avec vivacité.
Arrêtez quand vous voulez. Non, il monte en lui l'odeur de la neige. Cette blancheur, cette neige qui fond aussi, cette odeur de la neige, alors ce qui est drôle, j'entends, on a entendu ça tout à l'heure un peu quand on a parlé de Bohuslav Hrének. Sur ce poème expressionniste un peu aussi, cette présence de la neige, l'histoire d'Aurélien en même temps et l'histoire d'une ombre claire, peut-être d'une ombre blanche, un peu, moi je pense à ces silhouettes un peu étranges de Jérôme Ménager sur les murs de Paris, ces hommes peints en blanc qui s'agitent. Est-ce qu'on est au fond, est-ce qu'on n'est pas au fond des représentations très fragiles ?
Ah oui, très très fragiles. Ouais. Non, mais là, bon, dans cette histoire qui n'a pas toujours été très, très bien perçue, c'est vrai qu'il est peut-être un peu déroutant, ce livre. L'idée, pour une fois, c'était moins une image qu'une idée. Je pense que c'est devant tout un ensemble de choses, de phénomènes qu'on peut constater, pas seulement dans la société actuelle, mais tout ce qu'on entend, ou du moins la manière dont l'ensemble des médias ont tendance à nous présenter l'actualité du monde, où on nous sélectionne quand même toujours tout ce qui est dramatique. Et d'un coup, un jour, je me suis dit, mais finalement, on a l'impression, presque sur tous les plans, qu'on part en marche arrière par rapport à ce récit qui est un mythe. Mais un mythe, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, ça a du sens profond, et qui est celui de la Genèse dans la Bible. Et comme dans la Genèse, ce qu'il y a de très extraordinaire, c'est que de jour en jour, le monde se crée et crée, par un travail de distinction de séparation. C'est séparation déjà des ténèbres et de la lumière, et puis des éléments solides et liquides, des masses. Ensuite, vont être créées les plantes, et chacune, et c'est répété constamment dans le texte, qui est très étonnant, chaque arbre, chaque plante, etc., selon son espèce, c'est toujours dit selon son espèce, les animaux également. Donc on voit la mise en place progressive, respectant d'ailleurs la mise en place sur la Terre, sauf que ça a duré sur des milliards d'années de l'émergence de la vie, jusqu'à l'humain. Hommes et femmes, il les créa, etc. Et puis Dieu est censé se retirer, pour laisser l'espace, la liberté, que laisser un espace de déploiement pour tout ce qui a été créé. En tant que mythe, en tant que parabole, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, qui donne vraiment, alors là, pour le coup, à penser à l'infini, moi, je trouve. Et un jour, j'ai eu l'impression, à force d'entendre fonte des glaciers, réchauffement climatique, les glaciers s'en vont. Et donc l'impression qu'il y a une sorte de confusion. On est comme si on était rentré dans le temps de la confusion où tout est confus. La terre et donc les éléments liquides ont l'air de se confondre. Les limites de tout sont repoussées. Par la génétique, on a l'impression là aussi que finalement, même les différences sexuelles, même la manière de la procréation, que tout peut être, et que le corps humain lui-même est en voie de pouvoir être de plus en plus manipulé, transformé. Donc, il y a eu tous ces massacres d'animaux qui n'en finissent pas. C'est quand même quelque chose d'ignoble qui a été commis depuis des années. Ça a été la vache qu'on a dit folle, ça a été les pauvres moutons, ça a été les volailles. Enfin, tout le monde y passe. Les cochons, tous les animaux y passent. Alors là, au sens propre du terme, vraiment des hécatombes. On a massacré par millions des animaux d'une manière absolument insensée. Tout ça parce que les humains les ont finalement empoisonnés avec des choses qu'ils savaient pas, dont ils n'avaient pas le véritable contrôle. Avec les OGM, on a également des tas de problèmes, on entend tout et son contraire. Donc on a l'impression qu'à tous les niveaux, c'était comme si tout ce qui était mis dans la Genèse était complètement tourneboulé, fracassé. Et puis, il y avait la petite cerise sur le gâteau, les débats sur le travail le dimanche ou pas, bon, qui était dans le monde autrefois dit chrétien, le Shabbat, l'équivalent d'un Shabbat. Donc, là aussi, plus de distinction des jours, une sorte d'uniformisation à tous les niveaux, de confusion, tout le contraire de ce qui se passe dans la Genèse. Certainement, ça a un sens. Bon, mais là, je laisse le soin à des philosophes, pour le coup, et des sociologues, par ailleurs. Je crois qu'il y a vraiment matière à réflexion philosophique sur ce phénomène, qui, en même temps, est intéressant. De manière, c'est comme ça. Bon, ben, moi, je l'ai traduit, peut-être, d'une manière... Voilà une sorte de parabole par la fiction et qui a déconcerté pas mal de gens qui ont été mis mal à l'aise par cette description, parce qu'effectivement, en apparence, il n'est pas sauvé, le personnage disparaît, mais moi je ne trouve pas que la fin soit sinistre du tout. Mais je suis la seule à me rendre compte qu'elle n'est pas du tout sinistre. Non, parce que disparaître complètement est emporté par, parce qu'on a tellement bien disparu, un courant d'air qui vous projette dehors, plus personne ne vous voit et en plus on vous a déjà oublié, ce qui nous arrivera tous très rapidement après notre mort, d'ailleurs ne nous inquiétons pas. Et donc le vent le chasse, mais il pleut ce jour-là. C'est pas mal, moi je trouve, il va retomber sous forme de pluie.
Oui, c'est une spore.
Oui, sport et pluie, donc il n'est pas du tout perdu.
Alors dans cette espèce d'évolution... vers la disparition. Les seuls qui continuent un temps à percevoir Aurélien, quand même, c'est Joël, son frère, qui est handicapé, incapable de parler, et puis un sans-domicile fixe qui, lui, est abandonné à sa crasse et à sa solitude. Il y a quand même une espèce de fraternité des laissés pour compte là-dedans. Et c'est aussi un plaidoyer contre l'indifférence, ce livre. On vous sent habité par le souci des autres.
Oui, du moins dans les livres.
Oui.
Non, parce que parfois on me dit tellement ça, après j'ai honte, on me dit on va penser que, mais...
Penser quoi ?
On l'est jamais assez. Non, il suffit de me promener dans n'importe quelle rue, de passer, pas seulement à Paris. À Paris, c'est plus flagrant, parce que c'est constamment, c'est dans le métro, c'est dans la rue, c'est partout. Mais même dans des villes de province, partout, on voit ça, des gens dans des états absolument effroyables. C'est vraiment la déréliction totale. Parce qu'au bout d'un moment, c'est tout, à force d'être dans la misère physique, matérielle. Il y avait eu ce livre-là qui était très très fort, même si l'auteur parfois avait des prises de position qui pouvaient être assez détestables. Mais c'était un livre remarquable en même temps. Patrick, j'oublie son... Leclerc, de Claire, voilà. Les naufragés, c'est un livre remarquable, vraiment. Aux éditions Plomb, Terre humaine.
Est-ce que vous avez des questions à poser à Sylvie Germain ? Sylvie Germain, pardon.
Bonsoir, Sylvie Germain. Bonsoir, monsieur. Merci de... je ne sais pas si on m'entend et si d'ailleurs j'ai quelque chose de très intéressant à dire, mais j'avais envie de poser la question à Sylvie Germain. Et notamment à propos de Hors-Champ. Bien sûr, comme tous les gens qui sont là, je crois que nous vous suivons depuis très longtemps. Je voudrais en... précaution oratoire, dire que il me semble qu'il y a une évolution étonnante dans l'écriture de Sylvie Germain depuis le livre des Nuits. C'est-à-dire, d'une part, qu'on retrouve... excusez-moi, je suis un peu émue. On retrouve des... Si on fait de la littérature comparée à l'intérieur même de la littérature de Sylvie Germain, on retrouve des points communs, c'est-à-dire ces personnages qui sont toujours hors champ depuis le début de sa littérature et en plein champ en même temps. Il y a un resserrement de l'écriture, je dirais, à partir du lyrisme, qui se resserre de plus en plus pour devenir plus tendu, plus concis, moins étalé peut-être que dans les livres, le livre des nuits, mais qui, cependant, on a vu les pages là de la chanson des Mal-Aimants, reste extrêmement picturale dans une beauté picturale, vraiment. Un point commun, donc, à travers les thèmes traités. Et les personnages de hors-champ me semblent être, et je pense que Sylvie Germain va évoluer encore pour nous plaire et continuer à nous séduire. Le personnage de hors-champ, ce livre m'a posé un problème dans la mesure où ce n'est pas un problème avec, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a désarçonné les gens, mais il m'a posé plutôt une énigme. Et je me suis dit, et j'ai pensé au personnage, la manière dont vous en parlez, qu'il y a deux personnages essentiels et que Daniel est aussi essentiel et est aussi hors champ que Hervé, que Aurélien, pardon, et Joël. Alors je corrige les deux prénoms. Joël, donc, me semble un personnage complètement hors champ, de même que l'est le personnage de la chanson des Mal-Aimants. Et il me semble, à l'avoir lu et relu, que je ne sais pas s'il y a des gens peut-être où je n'ai pas lu toutes les interprétations et je n'ai pas la prétention d'avoir une bonne interprétation. Bien entendu, c'est une partie de mon interprétation et de la réponse que je me suis donnée à l'énigme que je me suis posée. C'est que Daniel me semble le premier personnage.
C'est pas Daniel.
Mais c'est pas grave.
Joël. Joël est, je dirais, le premier personnage le plus important, bien qu'il apparaisse à la fin, même s'il est tout le temps dans le livre, puisqu'il est présenté par Aurélien. Hein, on entend parler de lui par Aurélien, comme d'un personnage qui était un futur écrivain, qui était appelé, qui avait de grands dons. Et il me semble personnellement que...
Il n'y a pas de question, attendez.
Il me semble personnellement que Aurélien disparaît au fur et à mesure que Joël commence à revivre. Si j'ai bien compris, à la fin, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il émet des sons, qu'il chante et que lui prononce d'une manière déformée le nom d'Aurélien.
Donc disparaître et revivre.
Donc quand Aurélien disparaît, j'essaie d'abréger. J'abrège. Hein.
Non, je crois qu'on a à peu près entendu tout ce que vous aviez envie de dire. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière.
Mais c'est ça, c'est la question. Et je voulais savoir si je n'avais pas divagué complètement. Il me semble qu'Aurélien, en fait, est un personnage relais qui est créé par Daniel, quelque part.
Alors, on va essayer de répondre là, de manière bref, parce que c'est vrai que...
Dernière phrase, je finis. Deux choses que j'ai vues dans l'énigme que me semblait poser Madame Sylvie Germain, c'est que Aurélien disparaît dans les photos et la belle-mère de Joël dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Et donc moi j'ai fait une enquête presque policière et identitaire en me disant que Daniel est hors champ, que Hervé est hors champ et que Aurélien est le personnage second relais et que l'interprétation sur la différence du monde, elle est surtout à voir du côté de Daniel.
Voilà, on a
de Joël.
Tout va bien, tout va bien. Je crois qu'on a tout compris.
Je pense que cette dame ou s'appelle Daniel ou vous connaissez un Daniel qui vous est très proche, mais c'est un très beau prénom aussi.
On va laisser Sylvie Gervais.
C'est un très beau prénom, Daniel. Mais le prénom de Joël, je ne l'ai pas pris pour rien. C'est un très, très beau nom parce que c'est quand même assez original. Si on voit, enfin, original, ce n'est pas le terme, mais un mot très fort puisque c'est Yo-El, c'est-à-dire Dieu, Dieu. Hein, si on prend l'étymologie de Joël. Donc, c'est quand même un nom assez extraordinaire. Et non, mais vous avez mis le doigt sur effectivement quelque chose de tout à fait, enfin, qui était important, mais qui se joue entre moi et moi. Donc voilà, il y a des lecteurs qui en sont très attentifs. Au départ, je pensais que ce serait le personnage qui est devenu Aurélien qui s'appellerait Joël, justement à cause de ce sens que je ne donne pas au moment où il va l'expliquer, comme personne ne l'écoute, voilà. Ce n'est pas cité, ce n'est pas expliqué le sens de ce nom de Joël. C'est totalement allusif. Et au départ, je pensais que celui qui est devenu Aurélien aurait ce prénom Joël. Et c'est comme toujours, qui va là, que se passe-t-il, pourquoi les personnages vous échappent, l'histoire vous échappe en chemin. Ce personnage de Joël s'est accaparé le nom et était comme une sorte de doublure, d'ombre portée, mais d'ombre bienveillante en même temps. Ce sont quand même deux frères, deux demi-frères, des faux frères, mais bon, peu importe, des faux frères sont parfois plus de vrais frères. Au bout d'un moment en écrivant, je me suis dit, ben voilà, chasser le naturel, il revient toujours au galop, même si ce qu'on appelle le naturel, là, est, bien sûr, ben notre naturel, il est culturel, obligatoirement. Donc, j'ai bien vu au bout d'un moment quand même ce qui avait dû se passer dans mon inconscient sur le plan donc culturel. C'était pas neutre, c'est, partait quand même de cette idée d'une sorte de genèse à rebours, hein, une sorte de décréation qui s'incarne là simplement dans une seule personne, au point qu'à la fin, même sa propre mère ne se souvient même pas qu'elle a eu cet enfant, puisque c'est une telle échappée, c'est un tel effacement. Et au bout d'un moment, en écrivant, le fait pourquoi ce prénom de Joël s'était tellement imposé à moi, et en même temps, je sentais qu'il ne pouvait pas aller à celui qui s'effaçait. Et que c'était ce frère fracassé, ce jeune homme qui a été fracassé par un acte de totale malveillance, de violence gratuite, comme malheureusement ça peut arriver, et qui est resté entre la vie et la mort. Mais on ne sait jamais ce qui se passe chez les gens qui ont été accidentés ou qui ont eu parfois une rupture, quelque chose, et qu'on pense qu'ils ne comprennent plus rien, qu'ils sont... Mais évidemment, ils donnent une impression d'être complètement... attardés, abrutis, ils bavent, ils ont l'air idiots, selon nos critères, ils ne peuvent plus parler. On pense qu'il n'y a plus personne là-dedans. Bon, on les maintient en vie, mais on ne pense pas que, comme des gens dans le coma. Mais là, on a vu récemment cette histoire d'un jeune homme qui est tombé dans le coma à l'âge de 20 ans, et 23 ans plus tard, il se réveille, enfin je veux dire, on voit qu'il peut communiquer, et qu'en fait, depuis 23 ans, quelle force intérieure il avait. Il était, tout le monde le prenait pour un légume, et lui, tout fonctionnait, intact dans sa tête. Simplement, il n'avait plus les moyens physiques de l'exprimer. Moi, je ne sais pas si ce Joël n'a pas tous les moyens intellectuels en lui, mais simplement, il n'a plus les moyens physiques d'exprimer. Ce qui fait que, certainement, il sent les choses, il devine. Et en même temps, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était même plus symbolique que je ne l'avais pensé. Et ce n'est pas pour rien... Yo, elle, c'est comme on peut dire une image. Dieu est mort, Dieu brisé, mais qui est là comme une sorte de Dieu mendiant. Hein. Et je vois bien dans mes lectures et mes intérêts intellectuels et autres vers quoi ça me renvoyait. Je me suis dit, bon, ben voilà, je pensais faire quelque chose et mes vieux, pas dire mes vieux démons ou mes beaux anges, je ne sais pas, me sont revenus, mais je n'avais pas l'explicité dans le roman. C'est un roman et c'est peut-être ça aussi, cette espèce d'intrusion d'autres choses dans mon roman qui me sont venues, qui ont un peu troublé le jeu romanesque, qui a rendu ce roman... au mieux énigmatique, au pire pas très lisible ou voilà. Mais vous avez pointé quelque chose de juste. Mais je rappelle qu'il s'appelle Joël et l'autre Aurélien. Aurélien, ils ont aussi un beau sens, hein, dans c'est comme Laura. Et, voilà, ça renvoie à la luminosité.
D'autres questions?
Vous avez un style époustouflant. C'est ici. J'ai prêté la semaine dernière La pleurante de Prague à une amie et qui m'a dit je lis à voix haute parce que c'est tellement magnifique que c'est très musical. Et d'autre part, ma propre question, c'est votre rapport par rapport au corps féminin, à la gravidité. Pratiquement dans tous vos romans, la gestation est très très forte, le corps féminin est très fort, même s'il est évanescent. Et je me souviens d'une expression, par exemple, « gravide de mort ». Vous avez des expressions flash qui sont d'une justesse inouïe.
Je suis gravide de pas grand-chose, là. Non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de spécialités. Enfin, plus dans mes premiers romans, il y avait eu des grossesses traitées sur un mode dit fantastique, effectivement. Mais l'expression est très belle, de toute façon, gravide. Je trouve que c'est un mot qui est très, très beau. Et d'ailleurs, on peut l'employer, comme vous venez de l'expression que vous venez de mentionner, de façon tout à fait métaphorique. Et là, c'est partagé homme ou femme. Hein, et ça, c'est important. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'il y ait une part de masculin aussi chez la femme et une part de féminin chez un homme. Et je trouve très triste et très limité un homme ou une femme qui veut totalement renier ou qui n'a aucune part de cette différence. Après, c'est un problème peut-être d'alchimie, hein, de dosage. Et bon, pour en revenir au corps, bien sûr, les corps, mais pas seulement le corps féminin, même si le rapport n'est pas le même. Le corps féminin va relever pour moi de... C'est tellement beau, c'est tellement émouvant un corps féminin. C'est une merveille de pouvoir regarder le corps un joli corps de femme. Et même moi, en tant que femme, et pas du tout attirée sur un plan sexuel par les femmes, alors pas du tout, bon, c'est comme ça, je peux admirer, mais comme j'admirerais une œuvre d'art. Voilà, je veux dire. Et c'est beau parce que, comme ça n'éveille pas un désir particulier, c'est une admiration qui est très rêveuse, et très rêvante. Un corps d'homme est pour moi beaucoup plus érotique, évidemment. Hein. Un beau corps d'homme, pour moi, une des figurations les plus érotiques du corps masculin, c'est les esclaves mourants de Michel-Ange. Voilà, il n'y a pas plus beau que ça. Hein, je vois pas pourquoi la revue Têtue s'acharne. Il pourrait mettre toutes les semaines une photo. Voilà, ils sont tous écrasés, ces jolis petits minets, à part ce... Les esclaves mourants de Michel-Ange, je ne connais pas plus sublime que ces esclaves mourants, quoi. Et non, simplement le corps. Alors là, je parle de beau corps ou séduisant ou érotique ou dans la puissance, dans l'éclat. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas plus aussi un corps pour moi est toujours émouvant, quel que soit un corps abîmé, un corps blessé. Bon, ça c'est encore autre chose, mais même un corps malade, un corps souffrant, c'est extrêmement. Je me souviens même, il y a déjà des années de ça, quand j'allais dans des piscines, parfois, d'abord, j'ai jamais bien su nager, donc je faisais ma petite brasse. C'est bien parce que ça permet d'avoir la tête hors de l'eau et de regarder tout ce qui se passe. Et en fait, je passais mon temps à regarder les corps. Que faire d'autre dans une piscine? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a des jolis corps de plus jeunes et tout. Mais parfois, je voyais des dames très, très âgées. Les vieux messieurs ne se baignent pas beaucoup, j'ai remarqué. Mais parfois vraiment des très très vieilles dames, toutes maigres, toutes bossues, toutes fripées, toutes avec un petit bonnet en plus, tout. Mais j'étais émue presque aux larmes de les voir, je veux dire. C'est beau de voir les corps, quel que soit leur état, je veux dire. Simplement, ça n'éveille pas les mêmes choses, voilà. Moi, je trouve le corps, de toute façon, tout est lecture, tout est lecture. Simplement, un corps qui a vécu, un corps âgé, donc fatalement un petit peu... déjà marqué, abîmé, parfois très marqué, ou voire souffrant. C'est vraiment, là, il y a tellement à lire, il y a tellement à deviner, ça dit tellement du corps, et c'est là que le corps devient visage, au sens de Lévinas, vraiment. Parce que quand il parle du visage, c'est pas que le visage, c'est vraiment l'être entier. Et on voit bien quand... le corps totalement érotique, c'est pas pour limiter ça, au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est encore d'un autre ordre, voilà. Et du coup, on peut prendre une image dans une sorte d'actualité people. Tout le monde a dû voir ces affiches. Elles étaient en géant à un moment. Je ne sais pas quelle revue, comme on dit, people. Cette actrice somptueuse, là, immense, avec des 20 mètres de jambes en hauteur. Sharon Stone. C'est vrai qu'elle est somptueuse, cette femme. Cette photo était assez grotesque, par ailleurs, j'ai trouvé. Bien sûr, elle est somptueuse, la photo était calamiteuse. Elle pouvait se mettre en valeur autrement qu'en étant un pute fouetteuse, j'ai pas bien compris, mais bon. Et c'était, quelle déclaration intéressante, j'ai 50 ans, et alors ? J'ai trouvé ça consternant, moi, de sottise, de vanité, de... Et ce qui aurait pu y avoir d'intéressant ou de beau, parce que cette femme, effectivement, elle est somptueuse, elle est magnifique. Mais c'était dommage qu'elle se soit, à ce point-là, elle-même fait une caricature d'elle-même. Elle aurait été tellement plus intéressante avec sa beauté, mise autrement. Et que c'était ce côté attrape, essayer de fasciner, ce bourrage de crâne, ce bourrage de regard qu'on nous fait. Et moi, j'étais un peu affligée devant cette image, mais qui est en même temps très symptomatique de certains de nos délires, de nos bêtises, là pour le coup, de société occidentale. Et on ne peut que se poser des questions. D'un côté, on est dans cette obscénité au sens propre du terme, c'est-à-dire tout est mis devant de la scène, on veut tout montrer, regarder, et à l'excès inverse, on arrive à ces dérives, comme avec la fameuse burqa, ou plutôt le niqab, qui pose aussi problème. C'est dans les deux cas, c'est je montre tout, dans les deux cas, je cache tout, mais dans les deux cas, il y a un rapport au corps qui n'est pas sain. Hein, où dans les deux cas, le corps est à la fois idolâtré, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve que des photos comme ça, parfois, posent énormément de questions. Bon, je suis un peu égarée par rapport à votre...
Non, mais justement, réflexion. À propos de questions.
Oui, je suis très heureuse de vous entendre. Merci beaucoup à moi et à vous d'être là. Vous avez dit l'écrivante et écoute les mots. Et moi, quand je lisais, je me disais quelle imagination. En réalité, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, j'allais dire, dans un monde complet, c'est-à-dire vous touchez les deux bouts. Je vais aller jusqu'à dire le yin et le yang, quoi. Vous êtes dans la voie de dans la voie, voilà. Et c'est vrai que en vous écoutant, tout m'interpelle.
Et vous avez une question ?
Non. Non, mais la question, c'est...
Pas obligé, hein.
C'est
non,
la
pas
question,
obligé.
C'est... quand vous êtes une écrivante, est-ce que... Pour moi, la question, c'est est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est l'imaginaire ?
Ben, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le coup, pendant que j'écris, je pense que c'est le moment où... C'est très paradoxal, on le sait, quand on est dans un moment... à chaque fois, je tiens toujours à préciser, c'est valable pour toutes les autres formes, je pense, de pratique artistique. Et on peut sembler un peu déroutant pour quelqu'un qui va rentrer dans le bureau, dans l'atelier, au moment où on est dans son travail, parce qu'on peut sembler très absent, très rêveur, très distrait. Peut-être que des choses énormes qui se passent à côté de nous, on n'y prête même plus attention parce qu'on est distrait, parce qu'on est requis ailleurs. Notre attention est requise ailleurs. Et on peut penser, on n'est plus dans la réalité puisqu'on est dans la distraction, mais pas du tout. On est peut-être là, à ce moment-là, parce qu'on a laissé plus de place, de dynamisme à son imaginaire, qui est vraiment une manière de une capacité de perception assez extraordinaire que l'imagination, mais c'est pas une imagination en délire, débridée, hallucinée, hallucinogénéisée, ou je ne sais trop quoi. C'est cette rêverie diurne, justement, la rêverie diurne par rapport au délire, à l'hallucination, sous fièvre, sous drogue, sous tout ce qu'on voudra, elle se double d'une conscience, d'une vigilance. C'est un mélange. Parce qu'on a souvent tendance à fonctionner par à-coups hein, dans nos vies, c'est-à-dire en séparant nos capacités, nos facultés de perception. On fait ci, on fait ça, et on ne fait pas tout de suite le lien. Et quand on est dans en attente, parce que je veux dire, on peut passer vraiment beaucoup de temps, hein, parfois devant son papier ou son ordinateur, bon, peu importe, ça revient au même... On est là, il peut se passer des heures avant que les idées se forment, que la phrase se forme, que la musicalité vienne, c'est le rythme, c'est le sens, c'est les personnages, c'est ceci, c'est cela. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui doivent... Bon, on est dans cette position d'attente, mais pour que quelque chose advienne, il faut que cette attente soit à la fois une totale disponibilité et une extrême vigilance. Donc, d'un certain côté, on va dire une sorte de relâchement, de lâcher prise, hein, la fameuse Gelassenheit, vraiment une sorte de lâcher prise, de respirer en état de totale réceptivité. Mais si on s'endort là-dedans, il ne se passera pas grand-chose. Les choses vont se diluer qui arriveraient. Donc, il faut être dans un état de dédoublement presque, donc disponibilité et vigilance pour saisir l'instant, le fameux kairos, l'instant propice. Bon, quelqu'un comme Gaston Bachelard en parle beaucoup mieux que moi dans des livres. Il parle très très bien de ça, de ce qu'est la rêverie diurne, justement. La rêverie pour lui, bon, plutôt du poète, mais de tout artiste. Donc c'est ça qui se passe. C'est comme ça que se passe la création.
Tous les âges. Ah, pardon. Je suis entrée dans vos livres comme le jour où, à 15 ans, je suis entrée au Châtelet écouter mon premier concert. J'ai été submergée, complètement roulée dans tout, dans la mousse, dans les arbres, dans les fleuves. Et c'était magnifique. Et je voulais vous remercier particulièrement pour le livre, ça va vous étonner peut-être, L'enfant Méduse, car je me suis occupée d'enfants, je me suis occupée de jeunes qui ont été violentés. Et vous êtes la personne, c'est inimaginable de parler ainsi de ça, avec cette force, avec cette vérité. Vous avez parlé de brisure tout à l'heure, et moi je parlais toujours de béance, voyez, c'est-à-dire quelque chose est détruit, et la suturation, la réparer, c'est, j'allais dire infaisable, peut-être pas, mais c'est très dur. Et je ne sais pas comment vous avez fait pour pouvoir le dire aussi joliment. Enfin, joliment, car ce livre, je dis à tout le monde de les lire, parce que arriver à écrire ainsi dans cette histoire, avec une histoire pareille, c'est voilà, fabuleux. Je continuerai à aller me rouler dans la mousse avec vos livres.
Et le crapaud Melchior.
La dernière question.
Est-ce que vous pourriez nous parler de l'écriture de Magnus, de ce livre ?
Oula, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus arrêter. C'est ça qui est terrible. Parler d'écriture de Magnus, c'était effectivement, le livre est construit d'une manière un peu particulière par rapport à d'autres, et là aussi ça m'était venu vraiment d'une manière totalement spontanée qui sur le coup m'a déroutée. Commence comme d'habitude, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Bon, au bout d'un moment on y va, hein. Et au moment de je parle d'un petit garçon et d'un Magnus. Et au moment de préciser, parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté qui dure le temps d'une phrase, et au lieu d'aller simplement, je pensais, à la ligne pour dire Magnus, on pouvait croire que c'était un autre petit garçon, Magnus est un ourson de taille moyenne, en peluche et tout ça, d'un coup, je me suis dit, et si je le décalais, si je le mettais comme une sorte de page à part ? Et je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre. Et puis, je continue mon histoire, et à nouveau, l'idée m'est venue de pouvoir mettre à part, comme donc ça faisait des ruptures comme ça, des pauses dans le récit. Je me suis demandé où ça allait me mener, j'étais même, je vous dis, assez inquiète, et peu à peu, cette idée m'a totalement séduite, elle me convenait très bien. Et c'est ça qui est étonnant, c'est pas seulement que les personnages finissent par s'imposer aux romanciers, et ça pour avoir entendu plusieurs fois des romanciers même vraiment extrêmement différents de ma manière d'écrire et de mes intérêts, mais on dit tous la même chose à ce niveau-là. Les personnages, il y a toujours un moment où ils nous surprennent, où ils nous échappent, où le cours de l'histoire, ça nous échappe, parce qu'au bout d'un moment, même si j'avais pas un plan précis au départ, au bout d'un moment, les choses se mettent en place, s'emboîtent, les idées engendrent des idées, les images appellent des images, et on se dit, bon, ça va aller quelque part. Mais la plupart du temps, ce qui me vient, ce que je pourrais vouloir décider, est battu en brèche, ça va pas. Les personnages font autre chose, les personnages vraiment surprennent les auteurs. Il y a quelque chose d'étrange dans ce... parlait de lutte tout à l'heure, en disant de relations plus ou moins conflictuelles, voilà, lutte avec sa propre imagination, des choses étranges qui se passent. Et là, c'est aller pas seulement dans la trame de l'histoire et des personnages, mais également dans la mise en place et le déroulement de l'écriture. Cette idée, c'est pas une idée, ça m'est venu comme ça, avec ces décrochements. Et après, bon, j'ai été totalement même séduite par ce jeu des décrochements qui permettait, au fur et à mesure, des jeux différents, des sortes de modulations. Vous voyez, et j'aurais aimé finalement recommencer de la sorte, et je me suis rendu compte que ça aurait été comme, puisque c'était devenu conscient, que ça aurait été comme essayer de tirer un peu trop sur la ficelle. Donc je me le suis interdit à la limite sur les deux livres qui ont suivi, mais si ça me revient très spontanément un jour que ça s'impose, je reprendrai ça, parce que peut-être que ça convenait pour ce livre-là, pour moi, voilà, un personnage lui-même dont le passé a été volé, la petite enfance est comme disparue, et ses souvenirs totalement fracassés. Et c'est peut-être ça qu'a dicté le fait que ce livre se bâtisse par fragments, dont l'un est en temps décalé. Hein, parce que une partie de ses souvenirs va lui revenir en temps décalé. Donc ce qui aurait dû être le fragment 1 prend sa place en temps décalé au milieu de je ne sais plus lesquels. Voilà, c'est tout parce que c'est la preuve que tout se tient quand on écrit un livre. Vous voyez, non seulement les mots appellent les mots, les images, et puis un mot va éveiller plein de réminiscences, de textes lus, d'images vues. Et du coup, après, j'allais chercher dans des livres que j'ai dans la bibliothèque, certains pas lus depuis 10 ans, 20 ans, parce que le fait d'écrire tel mot, telle phrase, ou de mettre le personnage dans telle situation me ramenait, ça m'évoquait quelque chose d'autre, et j'allais le vérifier, et c'était une manière en plus de rendre hommage à un texte, à un auteur. Bon, ça s'est passé comme ça pour ce livre-là. Mais je pense que c'est aussi et il s'y est passé aussi quelque chose qui m'était jamais arrivé et qui m'est pas arrivé depuis, c'est qu'un personnage d'un autre livre fasse un bond d'un livre, voilà. Et en plus, avec le décompte du temps, un temps imaginaire, mais un personnage que je laissais vers l'âge de 18 ans, aux portes d'une abbaye dans les années 20-25, je suis nulle en calcul, mais bon, j'ai fait quand même une sorte de calcul global. Là, dans Magnus, c'est les années 80. Et oui, enfin bon, ça fait à peu près...
Oui.
Voilà. Oui. 80-90, on arrondit. Et c'était concevable, mais j'ai été tout étonnée soudain, mais c'était vraiment comme une puce, quoi. Il a sauté d'un livre, il est rentré. Mais parfois, c'est vraiment ça. Vous avez les personnages, on essaye de les pousser par la porte, mais comme on dit de certaines personnes, on les pousse par la porte, ils rentrent par la fenêtre, par la cheminée, par le vide-ordure, tout y passe. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qu'on voudrait garder, il n'y a rien à faire, ils vous glissent entre les mains. Et c'est agaçant, ça pose problème, parfois c'est exaspérant et désespérant. Et en même temps, c'est aussi jubilatoire, cette espèce de surprise constante avec l'imaginaire et le réajustement auquel ça contraint, quoi. Voilà. Et avec la langue, c'est pareil, hein. La langue, par moment, pose problème, la grammaire pose problème, ou la structure. Et du coup, des idées peuvent venir comme celle d'un texte en fragments, voilà, mais ça convenait pour un livre, ça convenait pas pour d'autres, ça reviendra peut-être, je ne sais pas.
Ouais, écoutez, ce soir, je crois qu'on a essayé de rassembler les fragments, pas mal. C'était la dernière question. Merci beaucoup, Sylvie Germain. Donc, je renvoie, c'est un public de lecteurs fidèles, visiblement, mais je renvoie quand même vers vos livres. Le dernier chez Albin Hors-Champ, la plupart des autres sont réédités chez Folio, ce très beau céphalophore, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, hein, et puis également ce livre sur Boleslav Hrenek qui est sorti chez Christian Pirot à la fin des années 90. Merci encore, merci à vous. Bonne soirée.